Les colloques du Collège de France.
Nous pouvons commencer la dernière séance de cette journée riche en communication. Et nous avons, pour la première communication, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Rouault, qui est professeur honoraire à l'Université de Lyon 2, sur le thème donc texte de l'époque de Zibrilim provenant de la ville de Terka.
Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque qui m'accueille ici. Merci beaucoup. Je vais vous parler maintenant de Zibrilim, le nom de Zibrilim dans la tradition assyriologique est surtout associé au dernier roi de Marie, qui fut vaincu par Amourabi de Babylone. La ville de Marie fut détruite et ne s'en releva jamais. Nous avons donc été surpris de trouver sur plusieurs tablettes découvertes à Terka et dans les niveaux archéologiques postérieurs à cet événement, la mention d'un roi Zimrilim dans des contrats immobiliers. La présence aussi dans d'autres contrats de noms de rois de la même période post-Amourabi nous a évité toute tentation d'hypothèse sur une possible résurrection du Zimrilim de Marie qui aurait repris pied dans une nouvelle capitale. Je vous assure, il s'agit bien d'un autre Zimrilim. Je rappellerai tout d'abord que grâce au texte venant de découvertes fortuites puis de fouilles archéologiques à Tel Hasharat Terka, on a pu améliorer notre connaissance de l'histoire politique de cette région du Moyen-Euphrate à la fin de l'époque paléo-babylonienne et à l'époque dite de Hana. On a pu ainsi préciser une partie de la liste des souverains qui ont probablement régné depuis la ville de Terka, devenue l'agglomération la plus importante de cette région du Moyen-Euphrate après la chute de Marie. C'est lors de la 10e saison de fouilles à Terka que le nom de ce souverain est apparu sur des tablettes retrouvées dans le chantier E. Lors d'un nettoyage préliminaire, les textes étaient entreposés dans deux jarres sur le bord de la falaise naturelle créée par la coupure du Tel par l'Euphrate. Et ces récipients étaient en partie brisés et une des jarres était déjà presque complètement vidée. Et il nous a paru prudent de les dégager complètement avant de continuer la fouille du bâtiment qui sera par la suite identifiée comme un local destiné au stockage et à des activités artisanales. Nous n'avons pas assez d'éléments pour savoir si cet espace était intégré dans une structure palatiale ou bien domestique et privée. Situé dans un secteur du village moderne où les habitants actuels avaient l'habitude de jeter des déchets ménagers solides ou liquides, les deux jarres et leur contenu avaient beaucoup souffert aussi par l'érosion naturelle et l'infiltration de l'eau de pluie. Nous avons dégagé... Je suis allé dans le mauvais sens, voilà. Nous avons dégagé le contenu déjà en plusieurs blocs, certaines tablettes étant collées les unes aux autres et déformées à cause de l'humidité. Un long travail de consolidation et de restauration a ensuite été nécessaire dans les locaux de la maison de fouilles pour les séparer les unes des autres avec le moins de dégâts possible. Après cette phase de nos travaux, nous avons pu identifier une trentaine de contrats immobiliers qui mentionnaient une douzaine de souverains. Je vais vous présenter maintenant les quelques textes de cette collection qui documentent l'existence de Zimrilim de Terka et nous donnent des indices pour essayer d'ordonner au moins partiellement la séquence des souverains qui, à cette époque, avaient un rôle politique important dans le Moyen-Euphrate. Cela nous permettra aussi de mieux évaluer certaines tendances dans l'évolution des traditions scribales et juridiques locales. Comme beaucoup de contrats datant de cette époque, cette tablette, la première que je vais vous montrer, Terka 12 numéro 15, cette tablette qui mesure 12 cm de haut et 9 de large pour une épaisseur de 3,2 est rectangulaire, la largeur faisant à peu près les deux tiers de la hauteur. La partie gauche est occupée par une marge, cette dernière et d'autres espaces libres de texte sont comme souvent couverts d'empreintes de sceaux avec l'inscription des noms des principaux propriétaires de sceaux. Voici le début du premier texte, Tacta 12-15, où j'ai surligné en rouge les passages sur lesquels je souhaite plus particulièrement attirer votre attention. Il s'agit de l'achat par Sinim Gourani, fils d'Ishtar Ishmeshu, mentionné à la ligne 9, d'une maison mesurant un ninda, nindanou en acadien, et quatre coudées sur un demi-ninda. L'utilisation de ce type de mesure est relativement rare, et à ma connaissance, il n'est attesté en tout cas que dans cet exemple à Terka. Si le ninda mesure ici 12 coudées, et quelle que soit la valeur retenue pour la coudée, qui peut varier, cela représente quand même de toute façon une maison de petite superficie. Mais on remarquera aussi que Sinim Gourani était déjà propriétaire d'un local voisin, d'après la ligne 3. Il s'agit donc de l'agrandissement de sa propriété. La maison est achetée par Sinim Gourani à la ville, voire ligne 7-10, maison, et on insiste bien là-dessus, maison appartenant à la ville. Sinim Gourani a acheté la maison à la ville. Il s'agit bien d'un achat et non d'une donation déguisée, comme le précise la mention, ligne 2, de la remise de l'argent du paiement, sans toutefois que le prix exact soit indiqué, ce qui n'est pas tellement courant. La structure générale du formulaire est proche de celle des contrats dits de Hana, de l'époque de Hana, connus jusqu'ici, et en particulier de ceux qui mentionnent le roi Yadirabu. On notera toutefois quelques variantes, comme l'utilisation, ligne 2-3, du sumérogramme Da dans les formules Da Anta et Da Kita pour désigner les côtés au lieu de l'habituel ouz de Sadu Anta et ouz de Sadu Kita. On note aussi la formule aux lignes 14-15 qu'on peut traduire par « la transaction est terminée et pour toujours et mutuellement, personne ne présentera de réclamation ». Cette formule qui insiste sur la validité de la transaction apparaît assez rarement dans les contrats de Terka où l'on trouve plus systématiquement et quelquefois avec l'autre une autre formule qui est absente ici, Ashatwa, Nasbou, Shalabakri ou Laandurari, c'est-à-dire le champ est incontestable, c'est-à-dire qu'il est susceptible d'être vendu sans qu'il y ait de problème, il est incontestable, donc c'est le mot Nasbou, est libre de toute réclamation ou de contestation en cas d'Andurahu, c'est-à-dire en cas de procédure d'annulation des dettes. Par contre, la pénalité qui fait suite en cas de réclamation est très commune sous la forme qu'elle prend ici, ligne 16-21. Celui qui réclamerait devrait payer tant de mines d'argent au palais et on lui enduirait la tête d'asphalte chaud. Cette punition pittoresque par l'asphalte est absolument typique de la tradition Hana et n'apparaît que rarement ailleurs. Quant au serment, protégeant la transaction, ligne 22-24, il est prêté devant les dieux Shamash, Marduk, Hadad et Almush. Shamash y est de droit, comme dieu de la justice. Hadad est évoqué comme dieu de l'orage, particulièrement important en Mésopotamie du Nord. Par contre, la mention de Marduk est nouvelle. En effet, on remarquera que dans les 9 contrats du règne de Yadirabu retrouvés à Terka, pour la plupart faisant partie de l'archive de Puzurum que j'ai publié en 1984, les dieux nommés systématiquement sont plutôt Dagan et Itourmer. Ce changement, au-delà de l'aspect proprement religieux et théologique, illustrant une évolution locale des cultes, pourrait donc avoir un fort sens politique et être la marque de la défaite ou de la soumission de Terka en face de Babylone. Quant à Almush, sa présence va peut-être dans le même sens, il s'agit d'une divinité tectonienne de rang secondaire, présente surtout dans le sud de la Mésopotamie. Par ailleurs, on compte dans ce contrat 22 témoins, avec parfois 2 sur la même ligne. Ce grand nombre est caractéristique de la tradition légale des contrats de Hana. Les 2 premiers témoins de la liste sont manifestement des personnages officiels, le premier étant un Rakbu, le titre de Rakbu, Rakab, en sumérien, en idéogramme, est porté à Terka par un personnage qui semble jouer un rôle spécifique dans les transactions immobilières. On le trouve aussi dans 5 autres contrats de Terka, et dans notre cas, seule la fonction est indiquée, sans nom de personne. Il pourrait s'agir donc non pas d'une estafette ou messager, comme on traduit souvent ce ragbou, mais plutôt d'un intermédiaire dans la transaction, une sorte de courtier en opération immobilière. Le second personnage porte le titre de Rabianou, un maire ou un fonctionnaire municipal important, et dans ce cas précis, il représentait sans doute les autorités de la ville. On notera aussi que la liste des témoins est peut-être incomplète, le dernier Idi à la ligne 41 n'étant suivi d'aucun nom propre. Le scribe avait sans doute l'intention d'ajouter le nom plus tard, puis il a oublié, ou alors c'est une sorte d'etc., mais ça, on ne voit pas bien l'utilité. Enfin, le contrat est daté de l'année nouvelle, après celle où le roi Zimrilim a écrasé les Ahlamous. C'est un nom d'année, évidemment, qui ne nous était pas connu jusqu'ici, par ailleurs, et qui donne de ce souverain au moins l'image d'un roi sachant maintenir l'ordre dans son royaume face à des groupes de semi-nomades, selon la tradition politique propre à la région. Le second contrat, Terka 12-16, présente à quelques millimètres près une dimension semblable à celle de la tablette précédente, 12-8, 7-2, 3-2. La marge est couverte en partie d'impression de sceaux, mais sans la mention cunéiforme du nom des propriétaires de sceaux. Les signes que l'on voit sur la marge du revers sont les montants des indemnités payées aux officiels et ayant participé à la procédure. Et d'après la forme des signes et les bavures de l'argile, ces données ont probablement été ajoutées après coup, alors que la tablette était déjà en partie sèche. Ce contrat enregistre une donation de champs, faite toujours au même Sinim Gouhani, fils d'Ishtar Ishmeshu, par le roi Zimrilim. Le formulaire respecte la structure des contrats de tradition Hana, mais avec quelques détails inhabituels, en particulier la mention aux lignes 5, 6 et 11, 12 des canaux qui bordent les champs irrigués pour en délimiter ou catégoriser certains avec la formule Kerbanou Aname Nadi, c'est l'endroit entre parenthèses où les mottes de terre tombent dans l'eau. Voir CADK, page 404, qui fait peut-être aussi allusion à un possible phénomène d'érosion de la limite. Le roi Zimrilim est mentionné aux lignes 13 et 14 comme le fils de Idi Abou, qui est sans aucun doute le même que Yadir Abou, déjà connu à Terka comme roi de Hana. Cette façon d'écrire certains noms propres, tantôt sous une forme akkadienne comme Idi Abou, tantôt sous la forme amorite comme Yadi Abou, n'est pas rare. Ce roi nous est connu à Terka surtout par des contrats de Puzurum où il apparaît sous l'orthographe de Yadi Abou à la même époque que le scribe Sinadim Shumi, qui a écrit la tablette dont nous parlons maintenant, d'après la ligne 51. Il s'agit probablement du même roi que le Yadirabouum, une autre orthographe encore du même, ou Yadouabouum, mentionné comme vaincu par Samsou Iluna de Babylone, d'après un de ses noms d'année, RLA 2, numéro 184B. Ce faisceau d'indices nous permet de dater avec une relative précision son règne, contemporain au moins en partie de celui du roi de Babylone Samsou Iluna, seconde moitié du XVIIIe, et en passant, il renforce l'identité de notre Idi Abou Yadi Abou de Terka. Deux terrains sont concernés par cette donation, et la formulation est typique de la tradition Hana. On notera toutefois que le texte insiste, ligne 13-17, sur le fait que les champs offerts sont une propriété personnelle du souverain, établissant explicitement une différence entre les propriétés du palais, ligne 8-9, HA3 et de Galles, et les propriétés du roi, HA3, Zimrilim, Lugal, Dumu, Idi Abou. On remarquera aussi que parmi les dieux cités, dans le serment, ici, ligne 21-22, la présence de Marduk est incertaine et c'est cassé et on pourrait le restituer, mais je ne suis pas certain. Et plus significative est celle d'Itourmer, le dieu tutélaire de Marie, à côté de Shamash et d'Agan. Ce choix est donc résolument local et fait référence à l'histoire récente du Moyen-Euphrate. Il n'est d'ailleurs pas impossible que le nom du roi Zimrilim soit en fait un hommage à la mémoire de son prédécesseur Zimrilim de Terka. La liste des témoins mentionne au début, ligne 28, et à la fin, ligne 51, deux scribes différents recevant tous les deux des indemnités. Il me semble, on va passer à la suivante, il me semble toutefois certain que, selon la tradition, c'est celui qui se trouve en fin de liste qui a rédigé le texte, en l'occurrence Sinadim Tchoumi, qui apparaît dans d'autres contrats de Terka. La longue liste de témoins, 24 témoins, donnent ici toujours leur filiation et leur fonction, ce qui n'est pas systématique dans les contrats de Hana. Dagan réapparaît par ailleurs dans le nom d'année, qui se réfère à une offrande faite par le roi à ce dieu, peut-être une statue. La mention de cette offrande ne peut que confirmer l'importance que le culte du dieu Dagan avait encore dans sa ville de Terka, où se trouvait son temple principal. Donc, en ce qui concerne la liste des rois, ce contrat concernant encore Sinim Gourani établit aussi que Zimrilim est le fils de Yadihabou et contribue à confirmer l'identité Yadihabou-Idiabou. Par ailleurs, nous avons remarqué que ce texte se rapproche dans sa formulation encore plus que le précédent des contrats typiques de la tradition Hana. Une troisième tablette mentionne encore Zimrilim de Terka. Il s'agit d'un contrat daté du règne d'un roi inconnu par ailleurs et portant le nom de Kassapan, écrit Kassapan, mais qu'on peut aussi lire Kassapili si on veut lire le dernier signe comme un sumérogramme. La dimension de la tablette est assez proche de celle des précédentes, 12, 6, 5, 2, 8. La marche gauche est plus étroite que pour les deux précédentes et en conséquence, les sauts ont été déroulés dans le sens de la hauteur. En lisant la délimitation des deux terrains concernés par ce contrat, respectivement de 33 et de 45 ikous, on note tout de suite les ressemblances avec la tablette précédente, dans laquelle il s'agissait de deux terrains de 33 et 40 ikous. Si la différence de 5 ikous pour la seconde propriété peut faire naître un doute, il suffit de constater, que la description des limites présente d'un contrat à l'autre des similitudes qui ne peuvent pas être le fait du hasard, comme par exemple l'apparition dès la première ligne du terme de Harru, qui désigne un fossé ou une dépression comme nom du quartier, ainsi que la proximité sur deux côtés de cette propriété de champs appartenant au palais. On notera aussi l'utilisation de la formule Kirbanu Anamedadi dans les limites de la seconde propriété, ainsi que des formulations comparables malgré quelques différences pour les autres limites. En outre, les lignes 11 à 13, malheureusement en partie érodées, devait donner une explication plus précise de la situation. On peut lire ce champ appartenant à Zimrilim, roi, fils de Yadiabou, roi, à Sinim Gourani, son serviteur, fils d'Ishtarim Meshou, le champ il avait donné. D'autres considérations seulement partiellement lisibles à cause de l'érosion des signes, ligne 14-27, semblent bien aller dans le même sens. Sinim Gourani, qui donc avait bénéficié d'une donation de la part de Zimrilim, se l'était probablement fait confisquer, sans doute par le même roi, pour des raisons inconnues. Cette procédure a eu lieu apparemment à la fin du règne de ce roi, à moins qu'il ne faille supposer une situation encore plus complexe, avec un possible interrègne sur lequel, par ailleurs, nous n'avons aucune information. Ensuite, c'est le roi Kassapan qui va lui restituer la même donation, dès le début de son règne. On doit peut-être voir ici la marque d'une tension sociale ou d'un début de règne de Kassapan en rupture avec la situation précédente. Notons que Marduk est absent de la liste des dieux du serment. Dans ce contrat de restitution de la donation, on peut aussi noter, par rapport au contrat initial, des variations orthographiques intéressantes. Par exemple, dans le nom des protagonistes, Sinimgurani est écrit 30 Imgurani au lieu de Enzu Imgurani, et le nom du souverain mentionné comme Yadi Abu est écrit avec encore une autre orthographe intermédiaire entre Yadi Abu et Yadi Habu, c'est-à-dire une orthographe de plus. On pourrait évidemment penser que le scribe, et c'est même probable, n'avait pas en main le document originel au moment de la rédaction de ce nouveau contrat, ou bien qu'il l'a rédigé sous dictée orale, sans se préoccuper de l'orthographe du contrat ancien, en apportant des précisions nouvelles. Il n'en reste pas moins que les libertés prises par le scribe sont la marque de sa compétence en écriture et de son indépendance par rapport à des formulaires juridiques en principe assez rigides. Mais au-delà de la marque d'une certaine liberté et capacité d'innovation par rapport à la tradition locale dans la pratique scribale de cette époque, ces ressemblances et ces variations sont peut-être aussi, au moins pour certaines, le reflet d'une société ouverte et pluriculturelle où se rencontrent et se croisent des pratiques diverses. On peut aussi penser aux aléas politiques de cette période dans cette région, dans un contexte probable de tension dans les relations entre un parti pro-babylonien et un autre plutôt partisan d'une défense des traditions du Moyen-Euphrate, attaché à la conservation et à l'indépendance du royaume de Hana par rapport aux stratégies babyloniennes. La liste de témoins dans ce texte est encore plus détaillée que celle de la tablette précédente, indiquant soit la filiation, soit la fonction des témoins. On y retrouve 5 témoins communs aux 2 contrats concernant la donation à Sinimgurani et sa restitution. Et dans les 2 cas, ils sont écrits par le scribe Sin Nadin Chumi, cité en fin de liste. On peut donc estimer que la tablette que nous avons présenté d'abord, l'achat de M. Sinimgurani d'une maison à la ville, est plus ancienne que les 2 autres, d'environ peut-être à peu près une génération. En effet, il n'y a aucun témoin commun entre la première et les 2 autres, ce qui pourrait aussi laisser penser que le tissu social avait été profondément modifié entre ces 2 périodes, à la fin du règne de Zimrilim et au moment de l'arrivée au pouvoir de Kassapan. Enfin, on peut se demander pourquoi ces documents se sont finalement retrouvés dans la même jarre, soigneusement conservés, en même temps que d'autres contrats, dont les plus anciens sont sans doute contemporains de la génération qui a directement suivi la chute de Marie, et les plus récents sont datables de la période de l'hégémonie du Mitanni, soit plus de 2 siècles après. On peut aussi se demander comment il se fait qu'ils nous sont parvenus, pour beaucoup, en très bon état. S'ils n'avaient pas été découverts par la chute de la falaise, sous l'effet de l'érosion, on les aurait trouvés absolument impeccables. Mais il faut noter qu'ils sont tous sans enveloppe, aucun morceau d'enveloppe ni enveloppe, et ils sont tous sans aucune trace d'annulation, bien qu'évidemment obsolète. L'hypothèse d'une utilisation à des fins didactiques dans le bureau d'une famille de scribes dont aurait peut-être fait partie Sin Nadim Chumi peut être proposée, mais sans certitude absolue. Je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.